Europe Midi, Thierry Dagiral.
Et c'est le grand jour pour les discothèques. Elles vont rouvrir dès ce soir après 16 mois de fermeture. Enfin, le mot réouverture relève quand même de l'affichage. Dans les faits, le protocole sanitaire imposé par le gouvernement est très strict. Yasmina Katou, vous étiez ce matin avec le ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises, Alain Grisé, dans une boîte de nuit dans le quartier Pigalle à Paris.
Oui, et pour rejoindre la piste de danse du Madame Arthur ce soir, pas besoin de masque, mais il faudra montrer patte blanche, ou plutôt test PCR ou antigénique négatif, fait maximum 48 heures avant. Il faudra donc prévoir en amont sa sortie. Alors, pour ne pas avoir à réfléchir, garder l'insouciance d'une soirée de dernière minute, les clubbeurs doivent se faire vacciner, dit le ministre chargé des PME, Alain Grisé.
On est dans une situation où il y a des règles, dire à minuit moins 5, dire ça y est, je vais aller danser sans avoir vérifié qu'on est en règle, ben non, c'est pas possible.
C'était une habitude,
voilà.
Mais effectivement,
c'est celle-là, il faut que ça change.
Et
donc, si la pharmacie est ouverte jusqu'à 21h, ben, il faut décider à la discothèque avant 21h, si on n'est pas vacciné. Mais c'est encore mieux si on est vacciné.
Mais il faudra une jauge 75%. Les trois quarts des boîtes de nuit françaises resteront fermées par peur de ne pas être rentables. Sébastien Larère, directeur adjoint de Madame Arthur, est plutôt confiant.
Je sais que les gens ont envie de faire la fête, les gens ont envie de danser. Donc, un peu comme on dit au poker, on va payer pour voir. Et voilà, on est comme ça, on est dans cette idée de « on va voir ». Cette crise est tellement atypique, inédite, on ne sait pas du tout à quelle sauce on sera mangé. Mais on a vraiment envie d'essayer, puisqu'on a envie de bosser.
Et pour être rentable, le patron espère au moins 400 danseurs sur la piste de danse ce soir.
Voilà les explications en direct de Yasmina Katou, merci. C'est ce soir que les grandes vacances pour bon nombre d'entre vous vont débuter. Bison Futé prévoit du trait rouge demain dans le sens bien sûr des départs. Qui prend le volant chez vous? Est-ce qu'il y a des disputes dans le couple? La conduite masculine serait source de conflits dans près de la moitié des couples. Pourtant, 8 hommes sur 10 conduisent sur les longs trajets. C'est ce que révèle une étude récente de l'IFOP, quand le genre s'invite dans la voiture. Reportage sur la route des vacances signé Marion Gauthier.
Là, ce matin, qui s'est mis au volant?
C'est monsieur.
Monsieur.
Quand on est à deux, c'est monsieur.
Sur cette aire d'autoroute, les habitacles des voitures familiales se ressemblent. À droite, madame. À gauche, lunettes de soleil sur le nez et mains fixées au volant, monsieur.
Parce que c'est moi qui ai la clé, comprenez? Donc, je viens là.
La place du conducteur, Jean-Marie s'y assoit naturellement.
J'ai toujours été habitué. Mon père y conduisait. Ma mère, que de temps en temps, voilà. C'est une éducation. Hein.
Et beaucoup des copilotes s'en satisfont. Elles lisent, dorment, regardent les paysages défiler. Appuyée sur les pédales, Martine n'en fait pas une fierté. Elle évite ainsi les tensions.
Je m'embête pas.
Je suis un malade, maniaque. Ouais.
Il y a de ça aussi, en fait. J'ai pas envie de m'entendre dire tous les 5 minutes « Attention à droite, attention à gauche ». Alors voilà.
Moi, j'aime bien conduire. Je trouve ça plutôt juste que chacun puisse conduire.
On fait moitié-moitié, lance Lucille fièrement.
Personnellement, je préférerais conduire plus, mais je trouve ça bien.
David, son mari.
J'ai extrêmement confiance quand elle conduit. Moi, je peux m'endormir, par exemple. Alors qu'à l'inverse, elle s'endort jamais quand je conduis.
Et vous avez peur? Non, mais ça fait 4 lieues.
D'après l'IFOP, le style de conduite est l'un des principaux motifs de dispute dans le couple. 43% des femmes déclarent avoir déjà eu peur conduite par leur conjoint, contre 36% des hommes.
Voilà, quoi qu'il en soit, restez zen, surtout le reportage signé Marion Gauthier. Le Tour de France, 13e étape aujourd'hui, les coureurs viennent de partir de Nîmes, arrivés à Carcassonne vers 17h30, 220 km à parcourir. Une nouvelle étape faite pour les sprinteurs. Rendez-vous bien sûr dans le journal de 13h avec Richard Virenque. On va terminer ce journal avec le Festival de Cannes, décidément très politique, très engagé cette année. Hier soir, c'était le film de François Ozon sur la question de la fin de vie, l'euthanasie. Et bien ce soir, un film risque de secouer la croisette. Il s'agit du nouveau film de Paul Verhoeven, Benedetta, une histoire sulfureuse et d'actualité, Mathieu Charrier.
Une histoire d'homosexualité qui dérange, sur fond de religion et de fanatisme, avec une pandémie mondiale qui sévit. Paul Verhoeven a beau avoir achevé le tournage de Benedetta il y a 3 ans maintenant, le film est brûlant d'actualité.
J'ai vu Jésus, il est venu à moi. C'est son épouse, n'est-ce pas?
Virginie Efira joue sœur Benedetta, pensionnaire depuis son plus jeune âge d'un couvent italien, on est au XVIIe siècle. Elle se dit possédée par le Christ, ce qui donne d'ailleurs des scènes pour le moins marquantes, lorsqu'arrive sœur Bartoloméa, avec laquelle Benedetta va avoir une liaison. La mère supérieure, jouée par une incroyable Charlotte Rampling, va s'en servir pour tenter de faire exécuter Benedetta. alors qu'aux portes du couvent, la peste menace. Virginie Efira.
Pour moi, Verhoeven, c'est vraiment un génie. Si on pense à Basic Instinct, par exemple, il y avait quelque chose déjà, alors qu'on est bien avant MeToo et Weinstein, sur l'idée de à qui appartient le corps des femmes, qui cherche à le cadenasser, etc.
Paul Verhoeven s'amuse avec les codes de son propre cinéma et son image sulfureuse. Certains y verront des moments qui frôlent le grotesque, lui assument et parlent d'amusement. Une chose est sûre, c'est le premier film en compétition qui va vraiment diviser la croisette. Au Festival de Cannes, Mathieu Charrier, Europe 1.
Il nous reste à voir le temps, Marlène Duré. Alors le temps justement à Cannes pour débuter.
Oh, ils ont de la chance. Hein.
Il fait beau.
C'est du grand bleu. Jusqu'à dimanche, ils sont tranquilles. À partir de lundi, en revanche, ça va se voiler.
C'est tout le sud.
Oui, le tiers sud. Hein, tout le tiers sud, on est vraiment tranquille. 27-28 à Cannes d'ailleurs. Donc que vous soyez du côté des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, jusqu'à l'Occitanie, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, en passant par la Drôme et l'Ardèche, profitez-en. Du vent en Méditerranée, en particulier près des côtes varoises. Hein, la mer sera d'ailleurs agitée. Du vent sur les caps corses. Ailleurs, une alternance de passages nuageux et d'éclaircies plus ou moins larges. Le soleil finira par percer là où la grisaille s'est attardée ce matin, à Paris notamment. En tout cas, on croise les doigts. C'est toujours difficile quand il y a des poches d'humidité comme ça dans l'air de faire des prévisions, franchement. Hein, donc... les moins chanceux, la basse Normandie, la Bretagne et les pays de la Loire. Là, les nuages vont rester assez nombreux malgré une petite percée du soleil. On n'exclut pas quelques petites averses. De nouvelles pluies vont aborder d'ailleurs la pointe bretonne en soirée. On en reparlera tout à l'heure. Les températures dans le nord-ouest ont du mal à décoller cet après-midi. Elles baissent même par endroits. Prévoyez 18 degrés dans le Finistère et dans le Cotentin, 20 à Rennes, 21 à La Roche-sur-Yon. Plus à l'est, allez, on va noter 24 à Paris, à Nevers, Reims et Besançon. Les maximales à la faveur du soleil ont tendance à remonter, forcément. Plus 3 degrés à Toulouse qui passe de 24 à 27. Nous aurons une moyenne de 28 en Corse, 29 à Montpellier, jusqu'à 32 à Saint-Tropez.
Merci Marlène, à tout à l'heure.
Europe Midi, Thierry Dagiral.
Allez, restez avec nous dans un instant. Mon invité, il publie Didier Deschamps, La victoire et rien d'autre aux éditions du Rocher. Bernard Pascuito Deschamps reste sélectionneur. Est-ce que c'était la bonne solution? A tout de suite.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Thierry Dagiral.
Et à 2h50, on va parler foot. J-2, bien sûr, avant la finale de l'Euro qui opposera l'Angleterre à l'Italie. Je reçois Bernard Pascuito en ligne avec nous, auteur du livre Didier Deschamps, La victoire et rien d'autre aux éditions du Rocher. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On l'a bien sûr dit hier sur l'antenne d'Europe 1, pas de changement de sélectionneur, c'est ce qu'a confirmé le président de la Fédération, Noël Le Graët, hier. Est-ce qu'il fallait garder Didier Deschamps à son poste?
Eh bien, moi, je ne crois pas, mais apparemment, c'était décidé avant même de réfléchir.
Ça veut dire quoi? Décidé dans le contrat ou parce que l'amitié était très forte entre Noël Le Graët et Didier Deschamps?
Je ne sais pas, c'est comme souvent avec Noël Le Graët, ce n'est pas très clair. Quoi, parce que d'abord, il dit qu'il va se donner 8 jours de réflexion, qu'ensuite, ils vont avoir une longue journée d'échange, etc. Et hier, il nous annonce que dès la première poignée de main, quand Deschamps est arrivé, le sort était scellé. Alors bon, moi, j'y comprends rien. Quoi.
Vous auriez préféré un changement, un électrochoc, finalement, peut-être l'arrivée de... On parlait de Zinedine Zidane.
Oui, sans parler d'électrochoc, je veux dire, il y a un certain nombre d'éléments. Deschamps est là depuis 9 ans. On s'aperçoit de plus en plus que les sélectionneurs qui dépassent 5 ans, on a le sélectionneur allemand qui est à 15 ans, le sélectionneur portugais qui est à 7 ans, Deschamps donc est à 9 ans, ils se sont tous cassés la figure. Donc à un moment donné, il y a une lassitude.
C'est ça.
Ensuite, il y a eu une débâcle. C'est pas juste une défaite. On peut perdre un match. Il y a eu une débâcle contre la Suisse. Il y a eu des images que moi j'ai mal à oublier de comment refusant de sortir, de Pogba contestant en direct à la télévision le plan de jeu de Deschamps. Pour moi, il y a une perte d'autorité. Voilà.
C'est ça qui est intéressant. Aussi... C'est que finalement, au début, il est arrivé, il a recomposé cette équipe de France qui n'existait plus, il a créé un état d'esprit, un collectif.
Non, c'est pas vrai, excusez-moi.
Allez-y.
J'en ai assez d'entendre cette histoire de Deschamps qui a recomposé.
Mais l'équipe était en miettes, en tout cas.
Non, je suis désolé. C'est Laurent Blanc qui a recomposé sur des ruines. Entre 2010 et 2012.
Oui.
Il a recomposé sur des ruines, il a acquis une qualification pour l'Euro 2012, ils ont été éliminés en quart de finale de l'Euro par l'Espagne, champion du monde en titre et futur vainqueur de l'Euro, et c'est à la suite de ça, Noël Le Graët a fait dégager Laurent Blanc pour mettre Deschamps. Donc, comment il s'appelle, Deschamps n'a absolument pas recomposé sur des ruines. Ouais. C'était recomposé depuis 2 ans.
Certes, alors il a été capitaine de l'équipe de France, champion du monde, champion d'Europe, il a tout gagné. Comme sélectionneur, il a amené une deuxième étoile au maillot bleu. Finalement, ça reste aujourd'hui quand même le leader naturel.
Oui, mais bon, je veux dire, combien de temps? Parce que ce sera aussi vrai dans 10 ans qu'il a été champion du monde. Je veux dire, combien de temps? Est-ce que il a fait des choses formidables? Ils ont été champions du monde. Je le dis, il n'a pas fait que gagner. Hein. Ouais, ouais. Il a perdu la finale de l'Euro en France. Je veux dire, et là, il vient d'être éliminé.
Mais on comprend, vous dites finalement, donc, il est usé, est fin, fatigué, vieilli.
Oui, je ne sais pas, mais il y a sans doute besoin d'une nouvelle aventure. Et puis, il y a une Coupe du Monde. Moi, je veux dire, les exemples qu'on a de gens qui ont gagné énormément et qui ensuite ont perdu et qu'on a voulu, auxquels on a dit il faut qu'ils continuent parce qu'ils sont champions du monde, etc. Oui. Ça s'est mal terminé. Joachim Löw, ça se termine de façon catastrophique. Oui. Domenech, souvenez-vous, finaliste de la Coupe du Monde 2006. Oui. En 2008, il se plante. Oui. Et on, quand même, comme il est finaliste de la Coupe du Monde, quand même, on le garde. Oui. Ça nous a amené à Nice-Lin, en Afrique du Sud.
Bien sûr.
Bernard Pascrito,
qu'est-ce qui ne marche plus? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui, finalement, à Didier Deschamps?
Mais moi, je pense qu'il y a une perte d'autorité. Encore une fois, moi, les images de joueurs refusant de sortir et obtenant de ne pas sortir, ou contestant le plan de jeu de l'entraîneur, c'est des images catastrophiques. Après, moi, je trouve que Deschamps, pendant des années, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il a quasiment jamais fait de faute. À chaque fois, tout était parfait. Et puis là, voilà, en plus, il y a eu une certaine réussite. Là, il emmène Hernandez qui est blessé. Pas de chance, il y a Dean qui se blesse.
Il faut parler, bien sûr, de l'arrivée de Karim Benzema aussi, qui finalement n'a pas eu le temps de s'intégrer à l'équipe. Son retour, selon vous, c'était un bon choix ou pas?
D'abord, moi, je suis à 2000% pour le retour de Benzema, joueur extraordinaire. Il a marqué 4 buts. Moi, je veux bien qu'on dise qu'il ne s'est pas intégré. Mais ça, simplement, l'erreur énorme, selon moi, c'est le rappel de Benzema 3 semaines avant l'Euro. Enfin, c'est ridicule, cette histoire. C'est pour ça que j'ai du mal à penser que ce soit Deschamps qui ait décidé tout seul. Parce que Deschamps, il connaît suffisamment le football pour savoir qu'en 3 semaines... On n'apprend pas à 3 joueurs majeurs à jouer ensemble. Bon. Sans compter que Benzema n'avait jamais joué de sa vie avec Mbappé.
Bernard Pascuto, pour vous, l'erreur, c'est elle vient finalement de Noël Le Graët,
patron de la Fédé. Je pense depuis longtemps qu'il fait beaucoup d'erreurs. C'est un monsieur qui est très politique. Je vous dis, là, il nous a encore roulé dans la farine. Après la défaite, en disant « je vais recevoir Deschamps, je vais prendre une décision dans les 8 jours, on verra ». Et puis là, il nous sert un discours qui m'a halluciné hier. Quoi. Ah, une poignée de main, c'était réglé. Donc il n'y avait pas d'enjeu, il n'y avait pas de questions. Il organise, c'est un peu féodal. Quoi.
Vous pensez rapidement qu'il peut, Didier Deschamps, retrouver la niaque, l'envie de gagner, la gagne d'ici la Coupe du Monde l'année prochaine au Qatar?
Ah non, mais lui, je crois, je connais quand même un petit peu Deschamps, je crois qu'il n'a jamais perdu l'envie de gagner. Ouais. Ce qu'il avait comme atout énorme à la Coupe du Monde 2018, c'est cette entente et cette adhésion de tous ces joueurs
derrière lui.
À sa personne.
Bien sûr.
Et on a eu l'impression là qu'il ne maîtrisait plus les petites disputes entre Mbappé et Griezmann, entre Mbappé et Giroud. Il y a eu faire revenir Benzema, c'était une chose formidable. Ouais. Encore une fois, c'était de la justice sportive. Et en même temps, je trouve que ça a été violent par rapport à Giroud, par exemple, qui tout d'un coup n'existe plus. Il a été mis au placard.
Voilà. Donc tout ça, c'est des erreurs qu'on paye.
Merci à vous. En attendant, on regardera la finale avec passion dimanche soir. Et on l'écoutera en intégralité sur l'antenne d'Europe 1, Angleterre, Italie, bien sûr. Votre livre s'appelle Didier Deschamps, La victoire et rien d'autre, publié aux éditions du Rocher. Merci Bernard. Merci Bernard Pascuito d'avoir été avec nous ce midi sur Europe 1.
Europe Midi, Thierry Dagiral.
À suivre le journal de 13h, puis la France bouge. Très bel après-midi à tous.